Radio Kaku, Grand Témoin. Il est président national de la Société civile du Congo et président du groupe parlementaire des indépendants à l'Assemblée nationale. Modeste Bati Lukwebo et c'est lui que Grand Témoin reçoit pour vous aujourd'hui. Monsieur Bati, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans Grand Témoin aujourd'hui. Avec vous, nous allons parler de votre personne.
Avec plaisir.
Mais nous parlerons aussi de votre carrière professionnelle. Nous commenterons l'actualité avec vous, Monsieur Bati Lukwebo. Mais nous allons faire aussi le point sur ce que la société civile en RDC, parce que beaucoup des gens n'ont pas une bonne image de notre société civile au Congo. On va faire le point tout à l'heure dans notre entretien.
D'accord, d'accord.
Ok. Alors commençons par une brève biographie de vous. Vous naissez un certain 13 juin 1956 à Bukavu.
C'est le 13 janvier 1956.
13 janvier, merci.
Effectivement.
Et c'est là que vous passez votre enfance à Bukavu?
Je passe une partie de mon enfance à Bukavu. Et je fais mon école primaire à la paroisse, à l'école primaire catholique Saint-Lambert de Mwanda Katana. Et après l'école primaire, je suis sélectionné par les prêtres pour aller au petit séminaire à Nyangezi à Chibimbi.
Vous êtes sélectionné, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que on sélectionnait certains candidats. On prenait généralement les deux premiers de chaque promotion.
Vous étiez un bel client.
Je crois l'avoir été, parce que j'ai été trié et effectivement j'étais toujours premier de ma classe. Et donc j'ai été retenu parmi les quelques personnes qui ont commencé le petit séminaire de Chibimbi à Nyangezi. Et malheureusement, je ne suis pas resté très longtemps. Après une année, comme j'adorais beaucoup le football, je me suis fait une fracture au niveau de la jambe droite et voilà que j'ai été amené à l'hôpital Fomina Katana. Et comme c'était une grande fracture, je suis resté à l'hôpital pendant plus de 4 mois. Et malheureusement, au moment où je faisais les premiers essais de marche, j'ai encore glissé et j'ai été réinterné. Et donc, j'ai totalisé 7 mois à l'hôpital. Voilà pourquoi j'ai raté.
Une année de perdu.
J'ai raté l'année. Et quand j'ai repris ma santé physique, les parents m'ont changé d'école. Et je suis allé à l'Athénée du Banda, l'Athénée royale de Bukavu. Et c'est là que je ferai toutes mes études. D'abord, le cycle d'orientation que j'ai terminé. Et puis, les études secondaires en commercial et administratif. Et j'ai obtenu mon diplôme d'État en 1975, à l'Athénée du Banda. Et de là, j'ai été admis à l'Institut supérieur de commerce.
À Kinshasa?
À Kinshasa, où j'ai fait mon graduat jusqu'en 78. Et quelques temps après, j'ai d'abord travaillé. J'ai travaillé à la banque UZB, l'Union Zaïroise de banque, ex-banque belge d'Afrique, qui par la suite était devenue UBC, et puis aujourd'hui banque congolaise. Et là, après avoir travaillé pendant 2 années, je suis allé travailler avec les Italiens, à la coopération italo-zaïroise à l'époque. Et c'était un projet du ministère de l'Agriculture. Et là, j'obtiendrai une bourse des Italiens pour aller poursuivre mes études en Italie. Et c'est là que je ferai lauréat, la maîtrise, le doctorat en sciences économiques, option finance, banque, monnaie.
Les cours sont donnés en quelle langue? En italien?
Disons qu'il y avait des cours qui étaient donnés en français, parce qu'il y avait des cours qui étaient organisés en français et d'autres qui étaient en italien. Donc, ce qui fait que la première année était consacrée d'abord à l'apprentissage de la langue et après on a poursuivi les études.
Donc, vous parlez italien?
Oui, on parle italien. Non, je parle italien.
Ah oui, d'accord. Alors, vous aviez trouvé, lorsque vous êtes parti à l'université en Italie, vous avez rencontré d'autres Congolais là-bas?
Si, j'ai trouvé là-bas des Congolais qui avaient déjà terminé mais qui étaient restés là-bas à travailler comme Lura Faustin et tant d'autres. Mais dans ma promotion, j'avais juste un collègue congolais et avec lequel on a évolué et puis un autre, M. Ramazan Mulondani, qui malheureusement est décédé. Il vivait aussi en Italie, à Parma. Et par la suite, moi j'avais décidé de rentrer au pays. Parce qu'il faut noter que la plupart de mes compatriotes étaient mariés à des Italiennes. Moi je préférais quand même rentrer au pays. Bon, j'étais boursier, c'était déjà une différence par rapport aux
autres. Vous étiez déjà marié?
Non.
Non, pas tout ça.
Non, à ce moment-là, je n'étais pas encore marié.
C'est quand vous êtes rentré au pays que vous êtes marié.
Voilà, effectivement.
Alors, on va faire un pas en arrière. C'est quoi les plus beaux souvenirs que vous gardez de votre enfance à Bukavu?
À Bukavu, le plus beau souvenir, c'est en tout cas la vie de l'internat. C'était une bonne vie parce qu'elle mettait d'abord tout le monde au même pied d'égalité. Et on apprenait à vivre en groupe alors que... Parfois, quand on est à la maison, on a une certaine faveur parentale, mais là-bas, vous êtes tous sur le même pied d'égalité et on y apprend la discipline et l'ordre et puis savoir se prendre en charge. Je crois que c'est quand même un bon départ pour la vie.
Alors, on dit que la ville de Bukavu, c'est votre ville natale, c'est la Suisse de la RDC.
Oui, c'est la Suisse, il faut l'avouer, même si ces derniers temps, des questions urbanistiques sont en train de défigurer la ville. Moi, je garde encore l'ancien visage de la ville lorsque nous rentrions de l'école et qu'on passait à travers les quartiers vers Ibanda et vous sentiez que partout, presque dans toutes les maisons, il y avait l'odeur de la soupe parce que dans les habitudes alimentaires, quand on grandissait, il y avait d'abord la soupe avant de passer au plat de consistance et les parcelles étaient espacées et autour de chaque maison, il y avait des beaux jardins. Au jour d'aujourd'hui, je note que tout cela a été loti, on laisse juste une maison nue et on a loti comme ça les jardins et ça défigure la ville.
Et c'est dû à quoi? À sa population?
Il y a la surpopulation, il y a les rébellions qui ont fait que bon, il n'y avait plus d'ordre. Hein. Vous savez, la rébellion, ça veut dire qu'on ne respecte plus les lois du pays, mais aussi il y a la mauvaise gouvernance en général. Parce qu'il n'est pas dit que parce qu'on est de la rébellion qu'on doit mal gérer l'espace physique qu'on a. Et donc, c'est plus lié à la mauvaise gouvernance qui est inhérente de l'impunité.
Modeste Baïti Lukwebo, président national de la Société civile du Congo et président du groupe parlementaire des indépendants à l'Assemblée nationale, est celui que Grand Témoin reçoit pour vous aujourd'hui. Monsieur Baïti, parlons de votre carrière professionnelle. Vous avez commencé déjà à travailler à la banque
UGB
à l'époque, voilà. Avant même d'obtenir votre maîtrise et votre doctorat en sciences économiques appliquées.
Effectivement.
Après la banque, vous êtes passé par où? Après vos études en Italie, vous êtes revenu au pays?
Moi, j'ai d'abord été retenu comme enseignant à l'université d'État de Milan. Mais ça n'a pas tardé parce qu'aussitôt après, il y a eu la décision qui a été prise par l'ancien président de la République, le maréchal Mobutu, de démocratiser le pays. Et moi, je me disais que c'était le bon moment pour rentrer au pays, pour participer à la reconstruction nationale. Voilà que je suis revenu donc au pays et lorsque je suis arrivé, j'ai commencé à militer avec d'autres personnes. D'abord, je me suis trouvé un emploi, d'abord l'emploi d'enseignant à l'ISC et j'ai été admis pour dispenser le cours de comptabilité des entreprises en succursale multiple. Dans l'entretemps, je militais beaucoup dans les associations comme le FDD, Forum pour la démocratie et le développement, avec d'autres collègues comme Martin Fayoulou, Lengema César, Lengema Marcel, Lenny Londo, Maître Zamundo Albert et tant d'autres. En tout cas, on était plusieurs jeunes là qui voulions que les choses changent dans le pays. Et donc, du FDD, nous avons participé aux réunions qui ont mis en place les organisations de la société civile au centre Bondeko. C'était en mars 1991 et c'est là que prendra la naissance en fait de la société civile organisée. Parce qu'il faut dire que la société civile existe depuis des années, depuis longtemps. Déjà, il y avait à l'indépendance, il y avait les associations tribales et autres, à Bako et consorts, c'était toujours la société civile, il y avait des syndicats. Mais cette fois-ci, nous nous sommes organisés en 8 groupes pour que cette fois-là, nous puissions apporter le changement attendu par notre peuple. Donc là, on reprenait pratiquement tous les segments de la vie nationale. J'étais nommé comme administrateur directeur de la Banque de Crédit Agricole, et ça c'était en 1992. Et après donc, en 1994, en juillet, le 11 juillet, j'ai été nommé ministre du Budget. Et on a travaillé jusqu'en 95, en 95 juillet encore. Je suis passé au ministère de la Fonction publique jusqu'en 96.
On va s'arrêter un moment au ministère du Budget. Une certaine opinion estime que vous n'avez pas bien géré les budgets de l'État lorsque vous étiez vous occuper, lorsque vous occupiez cette fonction de ministre du Budget.
Vous êtes le premier à me le dire parce que j'ai révolutionné ce ministère. Imaginez que nous avons pu influer sur la nomenclature du budget de l'État. Et en un temps record, nous avons présenté deux budgets, c'est-à-dire un collectif budgétaire, parce qu'on était arrivé au milieu de l'année. Et en même temps, on a présenté un budget pour l'exercice 1995, qui a été approuvé avec brio. Au Conseil de la République par le mandat de transition. J'ai pu, moi, oser quand même faire le contrôle de la paix au niveau de l'armée. Et c'est la toute première fois dans l'histoire de notre pays. J'ai osé, même si j'avais été menacé par un colonel et tout ça jusque dans mon bureau. Mais comme j'ai toujours le sang-froid, finalement, il est parti et c'est finalement lui qui a été arrêté. Et on a continué le contrôle, on a récupéré plusieurs milliards de Zaïre à l'époque qui ont été reversés à la Banque Centrale et les preuves sont à la Banque Centrale. Je crois que si quelqu'un a mal géré, il ne peut pas faire autant de performances. Donc, nous, quand nous travaillons, nous avons toujours cet esprit-là de la société civile. Le bien-être de la population, la bonne gouvernance.
Voilà, le bien-être de la population, la bonne gouvernance. En une phrase, si je vous demandais, c'est quoi la société civile? Parce que il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de société civile, l'RDC. La société civile pense soit pour le pouvoir, soit pour l'opposition. Donc on n'a pas des gens neutres dans la société civile au Congo. Et pourtant, c'est des gens qui devraient être neutres.
La société civile, c'est la population organisée, organisée pour atteindre certains objectifs, pour servir justement de partenaire, contrairement à ce que l'on croit. La société civile est un partenaire de l'État. Ce n'est pas une opposition à ce que fait l'État. Parce qu'il y en a qui croient qu'il faut critiquer, il faut se comporter comme opposant pour croire qu'on est la véritable société civile. Non. La société civile, en fait, c'est une organisation de personnes qui se disent, voilà, puisque l'État ne sait pas réaliser telle tâche maintenant, mettons-nous ensemble, voyons si nous pouvons nous cotiser, voyons si nous pouvons trouver des ressources, mettons nos intelligences ensemble, nos efforts physiques ensemble pour réaliser cet ouvrage ou bien cette tâche ou bien mener une éducation civique. À partir de ce moment, en fait, ce sont des missions qui devraient revenir à l'État. Mais puisque l'État a des moyens très limités, l'État ne peut pas tout faire en même temps, eh bien, les citoyens se prennent en charge. Voilà pourquoi la société civile, c'est un partenaire parfait et naturel du pouvoir. Mais, vous savez, avec la crise et la misère, il peut arriver qu'il y ait des gens dans la société civile qui roulent pour chercher de l'argent. Ils croient qu'ils peuvent se taper des salaires dans la société civile, alors que dans la société civile, il n'y a pas de salaire. Moi, je suis là, ça fait presque 18 ans, mais moi, je n'ai pas de salaire. Au contraire, le peu que je gagne, je dois le mettre à la disposition des autres. On partage et on réalise des actions communes.
Vous n'avez pas de salaire, mais vous avez bénéficié quand même de beaucoup d'avantages du pouvoir.
Je ne sais pas les avantages lesquels. C'est-à-dire que, d'abord, tout travail mérite un salaire. Quand je travaille en tant que société civile, je le fais de manière bénévole. Mais si on fait travailler mon cerveau, si on remarque que quelque part je peux apporter une pierre à l'édifice, à la réflexion, et que par la suite on dise, bon voilà, celui-là, il a de bonnes idées, il peut nous être utile à telle ou telle tâche, ça c'est autre chose. C'est pour cette tâche-là que je serai payé. Mais pour le reste, il faut remarquer que je ne vous l'ai pas dit, de tout temps, même quand je travaillais, même quand j'étais étudiant, moi j'ai toujours aimé faire les affaires, c'est-à-dire avoir toujours un petit commerce, avoir toujours une activité agricole, l'élevage, ainsi de suite. Et ça, je n'ai jamais abandonné, quelles que soient les circonstances. Et ça m'a toujours permis d'avoir une certaine autonomie, une certaine indépendance vis-à-vis des pouvoirs d'argent. Parce que ce sont les pouvoirs d'argent qui font que certaines personnes ou personnalités politiques, parfois, deviennent changeantes et versatiles. Parce que lorsque la personne est dans le besoin, celui qui lui donne, il lui dicte ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire. Bon, en tout cas, moi personnellement, je peux dire que j'ai plus donné de mes moyens pour le fonctionnement de la société civile. Donc, je ne peux pas vous dire plus que ça.
Il y a combien de sociétés civiles au Congo?
Bon, d'abord, la société civile, elle est unique, mais diversifiée. Il se fait que lorsqu'il était nécessaire que la société civile parle d'une même voix, cela n'a pas été facile, parce que la vision n'était pas la même. Lorsque le pays, par exemple, était agressé, il y en a qui soutenaient, il y en a qui ne soutenaient pas. À partir de ce moment-là, il y a eu des divisions. Et lorsque il y avait le régime de la Deuxième République, le régime avait sa vision, nous autres, nous avions notre vision. Déjà, à partir de ce moment-là, il y a des associations et des membres de la société civile sous la houlette de Feu Bongo Mbeboul, vous vous rappellerez, même Jean-Pierre Lissanga et tant d'autres qui ont fait leur société civile qui était proche du pouvoir. Mais nous estimons que la société civile est plurielle, il faut laisser les gens s'exprimer. Sauf que quand il y a la visibilité, eh bien, cela attire parfois des jalousies et les gens croient que bon, il faut être visible pour être nommé quelque part. C'est quand on y mêle justement le pouvoir que ça crée des divisions au sein de la société civile.
C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans notre pays, M. Modeste Bahati.
Ce n'est pas une réalité seulement congolaise. Quand vous allez dans d'autres pays, en Éthiopie et partout, vous verrez que c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut considérer d'abord les partis politiques, non pour vivier que la société civile, c'est dans la société civile qu'ils prisent les cadres. Et les cadres, on les prise comment? C'est en les remarquant, en les voyant travailler, en les voyant à l'œuvre. Et lorsqu'on les voit à l'œuvre, on les attire vers soi. C'est ça la réalité.
Est-ce qu'on peut être membre de la société civile, je prends votre cas, on peut être président de la société civile et occuper une fonction politique?
Fonction politique dans un parti politique, non. On peut être membre d'un parti politique, mais pas occuper de fonction dirigeante dans un parti politique. Deuxièmement, il faut considérer les fonctions politiques exécutive et les fonctions délibérantes. Par exemple, le Parlement. Le Parlement, c'est le peuple en miniature. Donc, dans le Parlement, on peut retrouver des représentants, des écologistes, des partis politiques, de la société civile, ainsi de suite. Ça, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'incompatibilité. Un député, il peut bien animer une ONG, il n'y a pas d'incompatibilité. Mais l'incompatibilité, c'est dans le gouvernement. Et c'est pour cette raison que lorsque moi j'étais ministre, j'ai cédé mon fauteuil de la société civile. Donc j'avais cédé ça, on a élu quelqu'un d'autre qui a continué à diriger la société civile.
Oui, mais puisque vous vous dites toujours président de la société civile, et donc quand vous avez quitté le ministère, vous êtes rentré dans la société civile?
Je suis rentré dans la société civile, j'ai continué à militer, et puis finalement, j'ai été élu.
À part le ministère du budget, vous avez été aussi ministre de la fonction publique. Aujourd'hui, vous êtes député national, président du groupe parlementaire des indépendants à l'Assemblée nationale. Vous êtes proche de la majorité.
Pas proche, mais je suis dans la majorité.
En fait, vous dites que vous êtes dans la majorité, mais dernièrement, on a suivi un communiqué à la télévision qui vous suspendait.
J'ai été suspendu pour ne pas participer aux réunions et pour ne pas exercer les fonctions dirigeantes que j'avais au sein de la majorité. J'étais rapporteur de la coordination de l'ANP à l'Assemblée nationale. Et donc, pour ces fonctions-là, je suis suspendu.
Mais vous restez membre de la majorité?
Je reste membre, ça c'est clair.
Pourquoi vous avez été suspendu, M. Bahati?
Je préfère ne pas parler de ce problème, parce que je crois qu'il y a eu un malentendu. C'est un problème qui va être réglé au sein de la famille politique. Je préfère ne pas vraiment en parler.
Alors, parlons de la CENI. Oui. Vous avez beaucoup lutté pour que la société civile fasse partie de la CENI, mais malheureusement, vous n'avez pas atteint votre objectif.
Mais
est-ce important d'avoir un membre de la société civile au sein de la CENI?
Je vous dis que l'histoire nous donnera raison. Au moins, l'histoire aura noté que nous nous sommes battus pour que la CENI ne soit composée que de la société civile ou à la limite avec la société civile et les autres. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même quand vous lisez cette loi, la loi dit qu'il faut des personnalités indépendantes. Indépendantes par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport aux forces politiques. Et donc, quelqu'un qui est membre d'un parti politique ne devrait pas faire partie de la Commission électorale nationale indépendante. Mais la loi elle-même présente quand même une contradiction. Dès lors qu'on spécifie qu'il y aura des délégués qui seront désignés par la majorité et des délégués qui seront désignés par l'opposition, automatiquement, il y a déjà, on perd l'indépendance. Parce qu'on n'aurait pas dû parler de la majorité de l'opposition, on aurait dû parler seulement de 7 membres qui seront entérinés par l'Assemblée nationale. Mais le fait de faire ce distinguo, automatiquement, ceux qui sont désignés par l'opposition feront allégeance à l'opposition, ceux qui sont désignés par la majorité rendront compte à la majorité.
Mais cela ne signifie pas que lorsque le texte dit qu'il faut 3 membres représentés par l'opposition, 4 par la majorité, ça ne signifie pas que ça doit être nécessairement des personnes qui sont dans le parti, qui sont soit dans la majorité ou dans l'opposition. Les deux tendances peuvent priver dans la société civile.
Bon, je voudrais bien vivre cela parce que avec l'égoïsme qui nous caractérise, je ne sais pas si tout le monde met l'intérêt du pays devant ses propres intérêts. C'est cela qui devait être fait. Et c'est pourquoi nous nous sommes battus pour que la société civile soit elle qui compose la CENI, comme ça se fait ailleurs dans la SADC et dans d'autres pays. Mais chez nous, on a voulu innover. Il faut dire que le Sénat avait fait de très bonnes propositions qui tenaient compte d'abord de la prochaine configuration territoriale, en tenant compte des 26 provinces, mais aussi qui tenaient compte du fait que le volume de travail nécessitait qu'il y ait une assemblée plénière et un bureau qui dirige et ils ont proposé qu'il y ait des délégués de la majorité, de l'opposition, mais aussi de la société civile. Moi, je crois que ça, c'était des propositions sages. Mais pour une fois, l'Assemblée nationale s'est servie de son veto constitutionnel pour imposer son point de vue qui, aujourd'hui, pose des problèmes dans l'application. J'aimerais bien voir. Il ne faut pas que l'organe qui est chargé de l'organisation des élections puisse déjà partir avec des germes de suspicion, de destruction, des germes qui peuvent conduire le pays dans des troubles. Mais pour prévenir tout cela, eh bien, la composition fait partie des préalables pour qu'on puisse rassurer tout le monde que les choses vont bien se passer. Et là, je dois dire que ceux qui croient qu'ils pourraient tricher, qu'ils pourraient compter sur leurs partisans au sein de la CENI, vont déchanter parce que le peuple et nous tous, nous serons très très vigilants.
Et si aujourd'hui, M. Maïti Lukwebo est membre de la CENI, vous pensez que vous serez indépendant, vous, parce que déjà vous êtes proche, vous êtes dans la majorité, vous pensez que vous serez indépendant?
D'abord, je vous réponds directement que je ne suis pas intéressé parce que je voudrais être actif. Et quand on est à la CENI, on n'a plus les mains libres. On devient trop neutre. Moi, je ne veux pas être trop neutre. Moi, je veux être engagé pour le changement positif dans mon pays. Et bientôt, d'ailleurs, je crois que je vais cesser avec la société civile pour faire la politique active avec d'autres amis. On va voir comment on peut animer un grand parti nationaliste, un grand parti qui va marquer le changement, qui apporte quand même une touche pour la bonne gouvernance. Et je crois que c'est très important. Je me dis, je ne peux pas un seul instant, même si on me le proposait, accepter d'être membre ou président de la CENI.
Monsieur Baïti, vous pensez qu'on peut trouver des personnes neutres au sein de la société civile congolaise?
Mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Ne vous en faites pas, il y a beaucoup de gens qu'on connaît. Le malheur, c'est qu'on croit que la société civile se limite à nous autres, là, qu'on voit tout le temps, dans des manifestations, dans des cérémonies, dans des marches, ainsi de suite. Non. il y a d'autres qui ne se font pas voir, mais qui sont aussi valables et qui peuvent faire un bon travail pour la nation. Mais il faut que les gens pensent à eux. Si on n'est pas égoïste.
On va rester toujours dans l'actualité. Le Premier ministre Adolphe Mouzito a déposé le budget à l'Assemblée nationale, un budget qui s'élève à environ 6 milliards de dollars. Comment vous jugez ce budget?
Bon, je note que c'est un budget progressif, c'est-à-dire d'une année à une autre, il y a accroissement des chiffres, mais il reste à voir si réellement, dans le vécu quotidien, le peuple sent que réellement il y a des changements. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas le dire, parce que quand je parle avec mes travailleurs, quand je vois ce qui se passe à la cité, on ne le sent pas tellement. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que 7 milliards pour un pays aussi grand comme la RDC, 2 345 000 km², 65 millions d'habitants, tant de problèmes, tout ça, 7 milliards, c'est une goutte d'eau dans l'océan. La réalité, c'est que nous sommes pauvres de par notre propre faute. Le bon Dieu nous a dotés de beaucoup de choses, de beaucoup de potentialités. Mais nous sommes là comme une vieille maman assise sur un puits de diamants en train de commander le monde. Nous avons beaucoup de ressources ici. Le pétrole, c'est une richesse incommensurable que nous avons. Et les études récentes ont démontré que nous avons du pétrole partout, sur le plateau continental, au niveau des frontières est ou ouest, partout. Nous avons du pétrole. Mais
comment on peut expliquer ce paradoxe? On a
On ne prend pas les bonnes décisions. On ne prend pas les bonnes décisions pour mettre en valeur ces richesses-là. Donc, nous sommes un pays pauvre de par notre propre faute. Et donc, pour moi, 7 milliards, ça ne veut rien dire. Est-ce que nous aussi, on est incapable de dire, voilà, sur 7 milliards, donnons ne plus que 1 milliard 500 millions aux provinces. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je crois qu'il y a un problème de bonne gouvernance.
Mais c'est vous qui êtes au Parlement là-bas qui...
Le Parlement n'exécute pas le budget.
Pas exécuté.
Pas.
Contrôlé.
Nous contrôlons, oui. Mais le contrôle se fait a posteriori, comme maintenant. Nous attendons d'examiner le rapport d'exécution du budget pour le premier semestre 2009. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Si ce n'est que pour constater les dégâts.
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
Modeste Vache Lukwebo, quand vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, quand vous n'êtes pas dans vos cours, parce que vous êtes professeur d'université, comment vous passez vos moments de détente?
Moi, je dois dire que je n'ai vraiment pas de détente. Je suis là pour suivre mes activités, et elles sont nombreuses, je vous le dis. Moi, je suis dans l'agriculture, j'ai ma plantation de 340 hectares à Kabira, dans le territoire de Calais. Et là, je fais le maïs, le manioc, la banane plantain. Nous avons également l'élevage bovin, nous avons l'élevage porcin. Et en dehors de cela, je suis quand même aussi opérateur économique dans le domaine de l'hôtellerie. Je crois que vous le savez, que je suis le propriétaire de l'hôtel Riviera à Bukavu et à Goma aussi. On est en train de construire l'hôtel Riviera. Mais je suis dans beaucoup de choses, le transport aussi, l'acustre, avec des vedettes, et même ici à Kinshasa, on a aussi un canot rapide qui fait Kinshasa-Brazza. Donc je suis dans les affaires, je suis dans la politique, je suis dans l'enseignement.
Dans la politique, vous êtes homme d'affaires, vous êtes dans l'enseignement, dans la société civile, c'est beaucoup de choses à la fois.
C'est beaucoup de choses, c'est pour vous dire que j'ai très peu de temps de repos, mais je travaille avec Agenda pour que je puisse... bien suivre tout cela.
Alors, est-ce que vous avez aussi d'écouter la musique, quelque sorte?
Beaucoup, j'aime beaucoup la musique. Même quand je suis dans la voiture, même si c'est pour 5-10 minutes, j'écoute la musique. Évidemment, je respecte les heures des informations. Ça, c'est une nourriture quotidienne. Je sais que toutes les 30 minutes, je peux suivre la radio au Capi. Je peux suivre d'autres radios à certaines heures. Mais dès que les informations sont terminées, je mets ma musique douce, la musique congolaise, la rumba, j'aime bien.
Et c'est quel musicien que vous préférez le plus au Congo?
Tous ceux qui chantent bien, je les aime. Et évidemment, en tête de liste.
Vous avez une préférence quand même?
Oui, en tout cas, tout ce qui est tout puissant que jazz, ça j'aime bien. Suivi de Kofi et puis d'autres musiciens qui chantent aussi bien, pourvu qu'il n'y ait pas trop de bruit.
Modeste Baïti, nous sommes à la fin de notre entretien. Une dernière question avant de clore cette émission. Vos ambitions pour 2011?
Pour 2011, je voudrais jouer un rôle pour mon pays, un rôle politique. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit que je vais bientôt céder ma veste de société civile pour faire la politique active, et on y pense très sérieusement.
C'est-à-dire quoi quand vous parlez de politique active?
Ben,
vous allez vous représenter à la députation?
Non seulement que je veux me représenter, mais je veux le faire en groupe, c'est-à-dire dans un parti politique que nous voulons mettre en place.
Monsieur Baïti, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Ce grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Modeste Baïti Lukwebo, président national de la société civile du Congo et président du groupe parlementaire des indépendants à l'Assemblée nationale. Alain Goy était à la technique. Quel est le côté de la présentation de cette émission? Retrouvez-la sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon trou de programme sur la fréquence de la paix.